L'enseignement de la parole est quelque chose à laquelle la Bible nous dit de nous attacher avec la plus grande ferveur, avec le plus grand sérieux. Et c'est malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de faux enseignements qui traînent. Souvent, on aime bien les choses nouvelles. C'est un des ressorts de la publicité de dire que c'est quelque chose qui est... On présente quelque chose comme quelque chose de nouveau, d'amélioré. Et en anglais, c'est sur tous les paquets, quel que soit l'âge du produit, c'est « new and improved ». C'est nouveau et mieux que le prochain, le dernier, je veux dire. Moins bien que le prochain. Et le danger, c'est quand on transfère cet état d'esprit à la relation avec Dieu en disant que bon, la prière, l'enseignement de la parole, c'est bien, mais il faut trouver quelque chose de nouveau. Et ces choses nouvelles, elles durent le temps d'un nouveau tube de dentifrice jusqu'à ce que quelque chose d'encore plus nouveau arrive. Et si on ne s'attache pas à ce qui est éternel, la parole de Dieu, on est ballotté par les événements, on est ballotté par les vents de doctrine. On a vu que au chapitre 4, au début, on a regardé les versets 1 à 5 la semaine dernière, Paul expliquait que l'Esprit indiquait de façon très claire que certains qui se disent chrétiens, certains chrétiens allaient s'éloigner de la vraie foi sous l'influence d'esprits démoniaques, sous l'influence de doctrines qui ont des origines sataniques, c'est-à-dire des fausses doctrines qui sont mauvaises pour nous. Et ce qui est curieux, c'est qu'on trouve des gens qui se disent chrétiens, même des enseignants qui se disent chrétiens, qui vont propager ces fausses doctrines. Et pour répondre à la question qu'on est en droit de se poser, comment est-ce possible que quelqu'un qui connaisse Dieu, qui veuille le servir, enseigne des mensonges? Et il le dit, c'est parce que ces gens-là sont marqués au fer rouge dans leur conscience. C'est-à-dire qu'ils disent une chose et en font une autre, et à la fin, ils perdent la sensibilité spirituelle et ils sont prêts à accepter des mensonges et à les transmettre. Ils prenaient l'exemple des prêtres qui disaient qu'il ne fallait pas se marier et qu'il fallait se priver de certains aliments. Et ils récusent cette doctrine en disant que ces appétits, l'appétit pour la nourriture, le désir d'avoir des relations sexuelles sont de bonnes choses que Dieu a créées. Ce n'est pas le diable qui a créé ces choses. Et tous ceux qui disent qu'il faut avoir une vie ascétique, ne pas se marier, ne pas manger, ils ne connaissent pas la vérité. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec des remerciements, avec un esprit de reconnaissance en bonne mesure, selon la façon dont Dieu a voulu que nous bénéficions de ces choses. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et là, on voit que c'est vrai, la Bible nous encourage pour certains, dans certains moments, à prier et à jeûner. Donc on peut être en droit de s'abstenir de nourriture pendant un temps, mais on ne peut pas espérer mériter l'amour de Dieu en se privant de mariage, en se privant de nourriture systématiquement, comme le font certains ascètes. C'était la doctrine des moines qui s'enfermaient dans des couvents en se coupant du monde. On pense que si on s'isole du monde, alors là, on va pouvoir avoir une relation avec Dieu, mais très vite on s'aperçoit que le problème, il est non seulement dans le monde, mais il est dans notre vieille nature. Et on peut être enfermé comme un moine dans un monastère, avoir une cellule et ouvrir la porte juste pour qu'on nous donne une écuelle de soupe. On a toujours des mauvaises pensées dans le cœur. Si on n'est pas sanctifié par Jésus, par l'Esprit Saint. Et donc, cette idée d'ascétisme, cette idée d'être plus méritant en nous privant de certaines choses, c'est un mensonge du diable. Pourquoi du diable ? Parce qu'il fait référence au vieux réflexe de dire qu'on peut mériter l'amour de Dieu par nos propres efforts. Au lieu de comprendre que c'est Jésus qui, en mourant à la croix, fait que nous pouvons avoir cette relation purifiée, cette relation de réconciliation avec Dieu. Et dès que l'on commence à s'appuyer sur nos efforts pour mériter cet amour, pour mériter cette relation, alors on va à la catastrophe, parce que l'orgueil s'immisce dans nos cœurs, le légalisme vient polluer nos pratiques et on s'éloigne de Jésus, on s'éloigne de sa bonté, du fait que c'est dans notre faiblesse qu'il est fort. On commence à se croire capable d'arriver à des choses par nos efforts, nos bonnes résolutions. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas des efforts, mais ce n'est pas dans l'idée de mériter cet amour. Ce n'est pas dans l'idée de se priver de la nécessité du sacrifice de Jésus qui meurt à la croix pour mes péchés. Nous allons lire versets 6 à 10. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Verset 11, voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Paul, après avoir dénoncé les dangers des mensonges, des faux messages, dit à Timothée qu'un bon serviteur, c'est celui qui va enseigner ces choses et qui va les pratiquer. En exposant cela aux frères, en leur faisant savoir ces réalités, tu vas être un bon serviteur. Certaines versions traduisent par un bon ministre, mais des fois l'idée de ministère, ça a donné, dans le contexte où nous utilisons ce mot aujourd'hui, on a des ministères dans le gouvernement. C'est un poste de glorieux, c'est un poste de responsabilité qui peut donner envie pour des raisons de gloire personnelle, alors que c'est complètement à l'opposé de l'idée biblique d'un ministère, c'est celui qui sert les autres. Tu seras un bon serviteur. Un bon, ça veut dire quelque chose d'excellent, quelque chose de digne, quelque chose de méritoire, quelque chose qu'on n'a pas à regretter. Donc c'est très important. Alors vous vous dites, là encore une fois, C'est fait pour les pasteurs, ce passage. Ceux qui enseignent la parole. Mais nous sommes tous, si nous sommes chrétiens, nous sommes tous des enseignants d'autres personnes. Avant que les gens n'aient accès à la parole de Dieu, à une Bible, ils vont avoir plus de chances d'avoir accès à des chrétiens, à vous. Vous avez une sphère d'influence dans votre travail, dans votre famille, dans votre collège, dans votre faculté. Vous êtes le premier chrétien, la personne qui va toucher d'autres personnes lorsque vous allez vous identifier comme chrétien. Ils vont juger de ce qu'est un chrétien par votre comportement, par votre façon d'être, votre façon d'agir, votre façon de réagir encore plus, vos paroles, vos attitudes. Et donc nous sommes tous appelés à être des serviteurs, ceux qui se mettent au service des autres pour servir Christ Jésus. Souvent dans le Nouveau Testament, il y a deux façons de parler de Jésus ou de Jésus-Christ. Des fois on parle de Christ Jésus et puis des fois on parle de Jésus-Christ, ou plutôt Paul ou d'autres parlent de l'un ou de l'autre. Il s'agit toujours de la même personne, bien entendu. Mais lorsque Christ est en premier, c'est sur sa divinité que l'accent est mis. Lorsque Jésus est mis en premier, c'est souvent l'accent qui est mis sur son humanité. Mais encore une fois, Jésus-Christ, c'est l'homme parfait, c'est le Dieu qui s'est incarné en homme. Et je vous renvoie à une étude d'il y a 2 semaines qui montre que si on ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, on ne peut pas se dire chrétien, on n'a pas compris la foi chrétienne. On ne peut pas accepter le message de la Bible en niant la divinité et l'humanité parfaite de Jésus-Christ. Il y a seulement l'homme Dieu, Dieu l'homme, qui peut réconcilier les hommes et Dieu. Vous vous souvenez du rêve de Jacob qui voyait une échelle qui montait de la terre vers les cieux et sur laquelle les anges montaient et descendaient. Cette échelle, c'est une vision prophétique de Jésus-Christ. La foi chrétienne se distingue de toutes les autres religions dans le sens où ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme parce qu'il reconnaît sa impuissance à être en juste relation à cause du péché qui est entré dans les gènes de l'humanité après le premier péché de notre ancêtre Adam, qui a suivi Ève, qui a désobéi à Dieu. Et le premier Adam nous a tous condamnés, il est expliqué dans Romains. Mais le second homme, au sens de nouvelle nature, c'est Jésus-Christ qui fait qu'en lui, toute l'humanité peut être sauvée. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu, ça c'est le début de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. La Bible est très intransigeante. On nous reproche parfois, nous les chrétiens, d'avoir l'esprit étroit. Comment peut-on dire qu'il y a seulement le salut par Jésus-Christ ? On est intolérant. Pourquoi est-ce que ces pauvres musulmans, pourquoi est-ce que ces pauvres bouddhistes ne pourraient pas être sauvés, eux aussi qui ont une foi, notamment les musulmans dans Allah, qui croient en un Dieu tout-puissant ? S'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne peuvent pas aller au Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. c'est pas moi qui suis intolérant, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus. S'il y a d'autres façons d'aller à Dieu, alors Dieu le Père a fait la plus grosse des bêtises. Il a sacrifié son Fils unique alors qu'en fait il n'en avait pas besoin. Vous réalisez toutes les implications spirituelles, philosophiques, pratiques de dire qu'il n'y avait pas besoin de Jésus. On aurait très bien pu, par nos efforts, il suffisait de nous laisser les 10 commandements. Certes, il y en aurait qui ne seraient pas arrivés, mais moi je crois que j'y serais arrivé. C'est une prétention, c'est un orgueil, parce que nous avons cette maladie du péché qui est dans nos gènes. Même la petite émeraude, elle est toute neuve. Elle a juste 2 mois. Elle n'a pas eu le temps de faire des grands péchés. Et pourtant, le péché est déjà dans sa nature. Et tout le mal qu'elle va pouvoir faire à ses parents et aux autres, c'est parce qu'elle a en elle cette capacité à vouloir que ses besoins soient satisfaits d'abord. Elle ne va pas se gêner la nuit pour pleurer très fort si elle a faim. Elle se moque pas mal de savoir si son papa ou sa maman sont fatigués. Alors je crois que on avait avec Shedley, nous avait donné un conseil. Lui, quand il avait 4 enfants et que ses enfants pleuraient la nuit, il disait à sa femme, « Toi, tu t'occupes d'eux, moi je vais dormir sur le toit. » Et Aurélien m'a promis qu'il n'allait pas faire ça. Mais cette nature de pécheur, elle est évidente dès la plus tendre enfance. Et nous péchons parce qu'il y a cette capacité à pécher en nous. C'est pas parce que nous apprenons à pécher que nous sommes pollués par le monde autour de nous. Comme l'expliquait Jean-Jacques Rousseau, il disait que nous étions tous purs et bons, le bon sauvage au naturel qui était corrompu par la société. Et ce grand homme qu'on vénère comme un grand philosophe, il n'avait pas réalisé qu'en fait la société était composée d'hommes. Et pourquoi est-ce que la société composée d'hommes aurait été pécheuse s'il n'y avait pas des hommes pécheurs pour composer cette société qui devenait pécheuse? Ne vous laissez pas impressionner par les grands noms de la philosophie, de la politique, les grands noms des médias, les grands noms de la science. Soyez impressionnés par Jésus. Recevez sa parole comme la vérité. Et vous verrez que l'histoire, la vie vont vous donner raison, en fin de compte. Paul dit à Timothée, tu seras un bon serviteur de Christ Jésus parce que tu es nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Il faisait peut-être référence au fait que dès sa plus tendre enfance, sa mère, Eunice, sa grand-mère Loïs, on verra ça dans la deuxième lettre de Timothée, le premier chapitre, verset 5, « Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Timothée avait reçu un enseignement chrétien à la maison, de la part de sa maman, de la part de sa grand-mère. Et ça nous donne l'importance, ça nous montre l'importance d'un héritage chrétien et de la responsabilité des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, s'ils sont encore là, à influencer les enfants dès le plus jeune âge. Ne laissez pas seulement l'école du dimanche s'occuper de l'enseignement religieux de vos enfants. Prenez toutes les occasions pour leur faire reconnaître quelque chose qu'ils sont prêts à reconnaître beaucoup plus facilement que des adultes qui ont été corrompus par l'enseignement de la philo au lycée, par les médias qui disent que Dieu n'existe pas et qu'on est le fruit du hasard. Que ces enfants, dès le plus jeune âge, ils reçoivent l'idée de leurs parents qu'ils respectent avant tout. Profitez pendant du temps où ils vous respectent. Aurélien et Linda, ça ne va pas durer longtemps. Il y a un moment où vous allez devenir les personnes les plus bêtes de la planète. Et puis vous allez voir que lorsque vos enfants passent de 20 ans à 30 ans, vous allez faire beaucoup de progrès. D'un seul coup, vers 30 ans, ils vont vous demander votre avis sur certaines choses. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup changé, c'est parce qu'eux ont réalisé la différence des choses. Il avait aussi reçu les paroles de l'enseignement de Paul, qu'il avait rencontré, donc on l'a rappelé, en Asie mineure, dans un coin perdu, probablement dirigé par l'Esprit Saint pour aller toucher ce jeune homme. Il avait reçu les paroles de la foi et de la bonne doctrine. Encore une fois, la bonne doctrine, où est-ce qu'elle est ? Elle n'est pas à Calvary Chapel. Elle n'est pas à l'église baptiste. Elle est dans la Bible, dans la parole. Soyez comme ces habitants de la ville de Béré dont parle Paul dans le livre des Actes, chapitre 17, où il dit que ceux qui recevaient l'enseignement, son enseignement dans la ville de Béré, étaient plus sages que ceux de Thessalonique parce qu'ils allaient voir dans la parole eux-mêmes. Allez voir si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Si on se détourne de ce qui est dans la parole, alors rejetez-le de la façon la plus ferme et la plus certaine. Ne retournez même pas dans les églises où on vous raconte des histoires. Si on utilise dans le langage commun d'une dénomination ou d'un mouvement religieux des termes qui ne figurent pas dans la parole, mais n'y retournez même pas. Si on enseigne des choses qui n'ont aucune base biblique, n'y retournez même pas. Fuyez, courez et avertissez ceux qui sont prêts à recevoir votre avertissement. Le discernement. On dit des fois que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. On sait que c'est faux. Le discernement, c'est un don du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on devrait demander à Dieu dans les situations où on a un doute. Seigneur, montre-moi, donne-moi ton discernement, directement par ton Esprit Saint, ou par la parole, ou par d'autres personnes. Je parlais avec quelqu'un qui venait de recevoir un courrier, dans laquelle la personne lui disait qu'elle était heureuse de lui faire savoir que elle avait été amenée à le choisir après de longues nuits de prière pour recevoir la fortune de son mari décédé depuis peu. Et nous avons reçu ce genre de lettre, ça fait bien longtemps. À l'époque, j'avais dit au trésorier, c'est bon, il n'y a plus de problème de trésorerie. La veuve du ministre nigérien va nous envoyer 20 millions d'euros si nous répondons à son courrier. Et je disais à ce frère, écoute, je ne veux pas te décevoir, peut-être tu as commencé à dépenser cet argent, mais sache que c'est une arnaque de première. Le discernement. Quelque part, on se dit, si la personne est capable de croire à ce genre de choses, pas étonnant que si on parle de doctrine de la prospérité, si on parle de guérison à exiger, à réclamer du Seigneur, que ces mouvements qui n'enseignent pas la vérité aient du succès. Parce qu'on est prêt à gober n'importe quoi. On est prêt à gober ce qu'on aimerait être vérité. Et je disais, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est qu'elle n'est pas vraie. C'est que cette chose n'est pas vraie. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas des miracles, mais si vous avez le moindre soupçon, demandez le discernement de la part de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint va vous montrer que non, ça c'est une arnaque. Alors je ne dis pas qu'on est tous. Moi le premier, je suis capable de tomber dans une arnaque stupide. Mais en matière spirituelle, nous avons une antidote. Nous avons la Bible. Nous pouvons aller voir si ce qu'on nous raconte, quand on vous raconte quelque chose, demandez un verset. Je suis souvent exigeant avec les gens qui me disent « Oh, il y a un passage dans la Bible qui dit que ça. » Et je dis aux personnes, « Désolé, je ne te laisse pas dire ça si tu ne me donnes pas un verset, une référence. » Alors c'est vrai, dans la Bible, il y a quelques passages où il est dit dans les paroles de Paul que, mais ça, réalisons que c'était avant que les hommes imaginent un système de chapitres et de versets. Mais aujourd'hui, n'acceptez plus aucune parole ne donnant pas sa référence biblique. Parce que sinon, on dit, oh oui, il est dit dans la Bible que si tu donnes la dîme, alors ça va être comme une semence qui va te rapporter plein d'argent. C'est l'enseignement de la doctrine de la prospérité. Donnez 1000 euros si vous ne me voyez sur la télévision et ça va être comme une semence qui va rapporter 100 fois plus. C'est de la manipulation. Soyez au clair avec la parole de Dieu. Demandez à ces personnes où est-ce que tu trouves ça dans la parole de Dieu. Et s'ils ne peuvent pas vous le dire, tu dis désolé, cherche ta référence et après on verra. Mais c'est trop facile de dire, de tordre. C'est ce que faisait le diable avec Adam et Ève. Oh, Dieu vraiment a dit que tu ne pouvais pas toucher de ce fruit? Oh, mais s'il te dit ça, c'est parce qu'il sait c'est que si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Ah bon? Oh, il est méchant, Dieu. Oh, mange-le, manger. Soyons sans pitié, sans intransigeant avec la doctrine, avec la parole de Dieu. Il faut la suivre, la bonne doctrine. C'est pas le tout de se connaître. On peut être très au fait de la Bible, on peut citer des passages par cœur, mais est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on la suit, cette doctrine? Timothée, lui, il la suivait exactement. Ce qu'on lui disait, il essayait de le mettre en pratique. Ça devrait être notre attitude. Il dit, repousse les fables profanes. Repousse les histoires qui sont profanes, ça veut dire qui sont en dehors du temple. Les histoires qui ne sont pas basées sur la parole, basées sur le vrai temple de Dieu. Les contes de vieilles femmes. Ah, je l'avais dit que Paul était macho. Il se moque des vieilles dames. À l'époque, c'est vrai que l'enseignement n'était pas ouvert aux femmes et que souvent c'était les personnes âgées qui avaient le temps de raconter des histoires, c'était les vieilles femmes. Et pareil que telle chose s'est passée là. Aujourd'hui, on parle des remèdes de bonnes femmes. Et souvent, il peut y avoir une sagesse populaire et peut-être des fois, ils ne sont pas à rejeter. Si vous souffrez d'insomnie, il paraît qu'un verre de lait chaud avant de se coucher, ça fait du bien. Moi, je sais que je ne supporte pas le lait. J'évite surtout le lait tiède qui m'empêcherait de dormir parce que je ne serais pas dans la chambre, je serais dans une autre pièce. Repousse ces histoires. repousser ces histoires. Exerce-toi à la piété. Si vous avez un crayon, soulignez. Si vous avez un marqueur, exerce-toi à la piété. Exerce-toi, c'est le mot qui nous donne le mot de gymnastique. C'est de l'exercice. Ça fatigue, ça fait transpirer, ça demande un effort. La piété, c'est le désir, c'est mener une vie qui plaît à Dieu. Ce serait une façon de résumer ce vieux mot qui fait souvent référence à un style de vie religieux, plein de religiosité, les piétistes, avec plein de règles, légalisme. Mais c'est un très beau mot, en fait. La piété, en anglais, c'est traduit par God. Godliness, qui veut dire godlikeness, être comme Dieu. C'est le mot en grec, Euseb. C'est un vieux prénom, ça, Euseb. On n'a plus beaucoup de jeunes Euseb dans nos églises ou dans le monde. On a plus d'Enzo que d'Euseb. Mais Euseb, c'est ce mot de piété, de façon de vivre qui plaît à Dieu. Et là, Paul dit à Timothée, exerce-toi, fais un effort, c'est comme de la gymnastique, pour que ta vie, elle plaise à Dieu. Ça veut dire fais un effort pour rejeter ce qui ne correspond pas à ce qui plaît à Dieu. Et nous pouvons savoir facilement ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Un passage me vient tout de suite à l'idée, c'est Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà déjà pour un petit programme à suivre. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors on lit ça et on dit, on ne peut plus regarder la télé, on ne peut plus aller au cinéma. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Mouna nous a dit qu'elle arrivait à lire la Bible 4 fois par an parce qu'elle avait arrêté de regarder la télé, d'aller au cinéma. Et peut-être que si on arrivait à la lire 1 fois par an déjà, ce serait en coupant le temps que l'on passe à voir des choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas aimables, qui ne méritent pas l'approbation, qui ne sont pas vertueuses, qui ne sont pas dignes de louanges. Peut-être que si on laissait ces choses de côté, on aurait plus de temps pour penser à ce que Dieu veut, ce à quoi il veut que nous pensions. Exerce-toi à la piété, la gymnastique. Et puis il ajoute, parce que c'était quelqu'un qui aimait regarder le sport. Paul, c'était un grand marcheur. Peut-être que quand dans sa jeunesse, il avait été tenté de courir ou qu'il avait fait de la course à pied. Mais c'est un thème qui revient souvent dans ses lettres. Il prenait souvent des images des compétitions athlétiques. Pensons à Romains 12, dans lequel il nous conseille d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je pensais aussi à la lettre aux Hébreux, ce qui n'est peut-être pas de Paul, où il nous est dit de courir la course qui est devant nous. Chapitre 12, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, comme des spectateurs, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposé. Les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est une invitation, pardon, à la course. Paul nous dit dans, je crois que c'est 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. » Donc moi, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Paul, il veut vraiment nous demander de faire des efforts, comme on fait des efforts pour, comme l'athlète fait des efforts pour réussir, gagner une coupe, une couronne qui va périr, quelque chose qui ne va pas durer. Et il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, la vie qui plaît à Dieu, est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alors il y en a qui disent, ça tombe bien, moi j'ai horreur de faire de l'exercice, et là ça dit que ça profite pas à grand chose de faire du jogging, d'aller transpirer au gymnase, ça tombe bien. C'est utile à peu de choses. C'est pas complètement inutile. Tandis que la piété, elle est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est vrai que de faire de l'exercice, ça a certaines vertus. Souvent égoïste, on se sent mieux quand on fait de l'exercice. Alors on peut dire que c'est moins pas égoïste, parce que si on est plus en forme, on peut mieux servir les autres. Si on est complètement épuisé, on a besoin d'aide, alors que si on est en forme, on peut aller aider les autres. Donc en ce sens-là, c'est pas mauvais. Mais ça n'a pas de promesse dans la vie à venir. Il y a des grands athlètes dont les os sont par 1,50 m sous terre, qui ne servent plus à grand chose. C'est utile, mais à peu de choses. Par contre, la piété, non seulement elle nous promet des bonnes choses dans la vie présente, mais aussi dans la vie à venir. Il y a plein de bénéfices à vivre une vie qui plaît à Dieu maintenant. Souvent, on a l'impression que c'est la vie de sacrifice. On renonce au plaisir du monde. Et là, on glisse tout doucement, vous le voyez, vers l'idée de renoncer au plaisir du monde, être comme un moine, vivre une vie d'ascèse. Oh là là, qu'est-ce que je fais pas pour l'amour de Dieu ? J'ai renoncé au plaisir. Vous avez peut-être renoncé au péché et au plaisir immédiat qu'il promet, qu'il délivre souvent. Mais vous avez évité tous les problèmes qui viennent lorsqu'on s'adonne au péché, lorsque le temps du péché suit son cours et que vous récoltez la mort, le fruit du péché. Si vous êtes chrétien, vous allez vous abstenir d'ivresse. Vous allez vivre honnêtement. Vous n'allez pas avoir le stress d'être en cavale, d'éviter la police, de paniquer lorsqu'il y a un représentant du service d'ordre. Vous n'allez pas vous adonner à toutes sortes de vices qui vont peut-être influer négativement sur votre santé. Les chrétiens vivent plus longtemps. Surprise. Vous vous mettez au service des autres. Vous pensez moins à vous-même. Vous n'êtes pas toujours en train de voir la vie en noir parce que vous voyez les occasions de servir les autres, de les bénir. Alors ça ne veut bien sûr pas dire que les chrétiens ne sont pas soumis aussi à la maladie, que la santé, on est tous soumis à la mort, on vit dans un monde imparfait. Mais il y a tout intérêt à vivre une vie pieuse, à vivre une vie qui plaît à Dieu. Une vie faite de modération, une vie faite d'amour des autres, une vie où on reçoit l'amour des autres dans une communauté où les gens s'aiment les uns les autres. Et en plus, cette vie de piété, elle nous promet, dans la vie à venir, la vie éternelle. La vie abondante, dont Jean parle dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, elle n'est pas seulement la vie future. La vie ici-bas, c'est aussi une vie abondante pour le chrétien. Ça ne veut pas dire une vie facile, ça ne veut pas dire une vie abondante nécessairement au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau de la beauté, au niveau des ressources. Mais c'est une vie qui compte, une vie qui satisfait, une vie qui est riche de sens et de promesses pour l'éternité. Paul continue en disant « c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçu. » Lorsqu'il dit ça, on l'a déjà vu, ça veut dire, il dit « ouvrez bien vos oreilles. Ce que je vous dis, c'est important, c'est la vérité et vous devez bien le retenir. Nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous travaillons. » Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui accepte le Seigneur lors d'une conférence ou d'une campagne d'évangélisation et puis qui se dit « j'ai accepté le Seigneur, c'est comme une assurance vie, maintenant je peux faire ce que je veux, je peux vivre égoïstement pour moi ». Non, Paul dit « nous travaillons », pas seulement les pasteurs. Tous les chrétiens doivent se mettre à l'œuvre pour Jésus, pour Dieu, pour être ses représentants, pour amener de l'amour autour de nous, pour être des instruments de paix, de bien-être, de bienveillance. Et nous luttons. C'est pas facile d'être chrétien. Mais il n'y a rien d'autre qui vaille la peine. Ça me rappelle ces paroles de Pierre qui disait « Vers qui irions-nous » lorsque Jésus voyait des disciples le quitter parce que ce qu'ils demandaient était trop dur, ils arrêtaient de suivre Jésus. Et Pierre dit « Vers qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la vie. » Il n'y a pas d'autre chose digne d'être suivi, d'être vécu, qui vaille la peine d'être vécu que de vivre pour toi, Seigneur. Et là, le mot qui est traduit par « nous luttons », on pourrait dire c'est le mot qui nous a donné le mot « agonir », agonisant. Quelqu'un qui est prêt à mourir, c'est à se dépenser sans compter au prix de donner sa vie. Les 35 heures. Le chrétien n'est pas un chrétien pendant 35 heures. Le chrétien, il est chrétien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous avez un coup de fil à 1 heure du matin et quelqu'un vous appelle parce qu'ils ont besoin d'aide, vous êtes censé répondre à cet appel. J'ai confessé que dans le passé, j'avais refusé d'aller aider Laurence, qui m'avait appelé pour que j'aille la chercher à Carrefour, parce que c'était le samedi après-midi que j'étais en plein dans ma préparation d'un message. Et je lui avais dit « Écoute, je ne peux vraiment pas. » J'avais eu le culot, mais le Seigneur m'avait bien repris. Alors évitez, s'il vous plaît, ne profitez pas maintenant que je vous l'ai confessé. Mais on est chrétien 7 jours sur 7. Ça serait un bon test, en fait. Et je fais confiance à l'Esprit Saint pour vous guider et ne le faire que si c'est vraiment une nécessité. Donc faites-le si vous le pensez. On doit se dépenser sans compter quand on est chrétien. Ce n'est pas seulement les week-ends où on est de garde qu'on doit répondre. Je suis d'astreinte tout le temps. Le chrétien, il est d'astreinte tout le temps. Et ça, on peut le faire, on peut le vivre, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. On peut vivre la vie chrétienne parce que l'on croit en Dieu. Ce n'est pas difficile de vivre de façon sacrificielle si on connaît Dieu et qu'on croit à ce qu'il nous dit. On veut qu'il puisse nous dire, lorsque nous le verrons, bien fidèle serviteur, bien fait fidèle serviteur. Dernière partie, le Dieu vivant, il est vivant encore une fois, il n'est pas le Dieu des morts. Trop souvent, on a l'image, par les représentations de Jésus mort sur la croix, on voit un cadavre pendu sur une croix, qu'il est mort. Il est ressuscité. Ces représentations sont fallacieuses, sont dangereuses. La croix, elle est vide. La croix, il n'y a plus, le Messie n'est plus sur la croix. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est Dieu le Fils à côté de Dieu le Père. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et ce Dieu qui est vivant, qui intercède pour nous aujourd'hui, il est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alors là, encore une fois, on peut prendre un verset isolé et prêcher une doctrine qui est contraire à la vérité biblique. Il y a certains qui se disent des universalistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout le monde va être sauvé et que peu importe la façon dont on vit, Dieu va nous sauver. Non, on l'a lu. 1 Timothée 2:3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En cela, il est le sauveur de tous les hommes. Mais tous ne sont pas sauvés, ce sont surtout des croyants, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment sauvés, c'est ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'il est le sauveur de tout le monde, et puis il y en a qui sont encore mieux sauvés que les autres. Non, soit on est perdu, soit on est sauvé. Donc n'allez pas croire ce qu'ils vous diront. Voilà un verset qui montre que tous les hommes sont sauvés. Arrête de nous embêter avec ta foi, avec ton évangélisation. Non, il faut mettre notre foi en Jésus pour être sauvé. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Ce que tu dois prêcher et enseigner. Il y a deux mots en grec. Un, c'est exhorter, c'est prêcher. Le mot de prêche aujourd'hui a une connotation négative. C'est faire du prêchi-prêcha. C'est, il faut pas faire ça mon petit, tu vas voir. Si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Non, prêcher, c'est montrer comment la vérité doit affecter notre vie, comment on doit être transformé. Ça, c'est recommander, c'est prêcher, c'est exhorter. Et enseigner, c'est donner, expliciter les vérités qui sont déjà dans la Bible. C'est pas trouver de nouvelles choses. C'est ces deux facettes qui font que l'enseignant doit s'y attacher pour que non seulement la vérité soit connue, mais que la vérité soit mise en pratique.